écoutez, monsieur, partez sans histoire. Ici, c'est une maison tranquille.
Et honnête.
Honnête. Seulement, t'emploie des juifs dans un établissement public, hein?
Mais je n'en crois pas. Elle me rend service.
Ah, parce que tu l'exploites en plus. Dis donc, j'ai bien envie de te dénoncer, moi, pour t'apprendre à vivre. Mauvais français.
Ça peut pas faire de mal.
Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Mais tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Et l'autre, de la rombière. La gueule en gélatine et sans doux. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. 50 ans chacun. 100 ans pour le loup, 50 conneries.
Où est-ce qu'il va chercher tout ça?
Salope pauvre.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Voici un petit florilège de citations féroces.
Vous me trouvez idiot? C'est parce que je suis en train d'échanger des idées avec vous. Paul Claudel.
Il y a des temps où l'on ne doit dispenser le mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux. François-René de Chateaubriand.
Il ne suffit pas d'être heureux, il faut encore que les autres ne le soient pas. Jules Renard.
Vous êtes professeur. Voilà bien le dernier des métiers, un métier que je n'aurais jamais consenti à faire. Apprendre à braire aux ânes, ils ne le sauront faire que trop tôt. Paul Léoto. Christine Murillou est une des femmes les plus gentilles que je connaisse. Et elle sait jouer la méchanceté comme personne. Christine Murillou, bonjour.
Bonjour, méchant Guillaume.
Ça peut pas faire de mal.
Consacré à la méchanceté. Pour ouvrir cette émission, une allégorie de la méchanceté avec ce court extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Le cinquième jour, le Petit Prince me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité, en silence.
Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs?
Un mouton mange tout ce qu'il rencontre.
Même les fleurs qui ont des épines?
Oui, même les fleurs qui ont des épines.
Alors les épines, à quoi servent-elles?
Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire.
Les épines, à quoi servent-elles?
Le petit prince ne renonçait jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs.
Oh.
Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune.
Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines.
Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions.
Et tu crois, toi, que les fleurs...
Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda stupéfait.
De choses sérieuses? Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça?
Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçai. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes.
Les Diaboliques, d'Henri-Georges Clouzot.
Encore du poisson ?
Ça n'est pas encore du poisson, c'est le même, celui d'hier soir.
Oui, bah tu me prends deux œufs sur le plat.
Oh, tu ne vas pas commencer toi aussi. J'ai 1 000 litres de vinaigre et 1 kilo d'échalote.
Oui, je dis pas qu'il soit mauvais, mais on sent que c'est du poisson. Il insiste.
Sers-toi.
J'ai pas faim.
C'est à toi de donner l'exemple, puisque mon foie m'interdit les sauces.
Non, je t'ai dit que j'ai pas faim.
Je te prie de manger. Oh. Avale.
C'est pas ma faute. Ça passe pas.
Avale. Silence ou je garde tout le monde ici pendant les fêtes. Avale. Maintenant, tout le monde te regarde. Alors, tu avales?
Tu trouves que c'est un dîner pour des gosses en pleine croissance? Un rond de saucisson et 2 cuillères de purée?
Ils n'avaient qu'à manger ce qu'on leur donne.
Après Le Petit Prince, restons dans le monde de l'enfance avec cet extrait de la pièce de théâtre « Poil de carotte » qui date de 1900, inscrite au répertoire de la Comédie-Française en 1912 et écrite évidemment par Jules Renard. Ici, le père de Poil de carotte se confie à son fils au sujet de sa relation avec sa femme, Madame Lepic.
« Comment, papa, toi, un observateur, t'es-tu marié avec maman ?»«
Est-ce que je savais ? Il faut des années, Poil de carotte, pour connaître une femme, sa femme. Et quand on la connaît... il n'y a plus de remède.
Et le divorce, à quoi sert-il ?
Impossible, sans ça. Ouais, écœuré par cette existence stupide, j'ai fait des propositions. Elle a refusé.
Toujours la même ?
Ben, c'était son droit. Je n'ai à lui reprocher, comme toi d'ailleurs, que d'être insupportable. Cela suffit peut-être pour que tu la quittes. Cela ne suffit pas pour que je me délivre.
En somme, papa, tu es malheureux ?
Dame.
Presque aussi malheureux que moi ?
Si ça peut te consoler.
Ça me console jusqu'à un certain point. Ça m'indigne surtout. Moi, passe, je ne suis que son enfant, mais toi, le père, toi, le maître, c'est insensé, ça me révolte. Ah, mauvaise, mauvaise, je suis exaspérée à cause de toi. Quelle femme !
C'est ta mère.
Oh, je ne dis pas ça parce que c'est ma mère. Oui, sans doute. Et après ? Ou elle m'aime, ou elle ne m'aime pas. Et puisqu'elle ne m'aime pas, qu'est-ce que ça me fait que ce soit ma mère ? Qu'importe quel est le titre si elle n'a pas les sentiments. Une mère, c'est une bonne maman. Un père, c'est un bon papa. Sinon, ce n'est rien.
Tu as raison.
Ainsi, toi, par exemple, je ne t'aime pas parce que tu es mon père. Nous savons que ce n'est pas sorcier d'être le père de quelqu'un. Je t'aime parce que...
Pourquoi ? Tu ne trouves pas ?
Parce que... nous causons, là, ce soir, tous deux, intimement, parce que tu m'écoutes et que tu veux bien me répondre au lieu de m'accabler de ta puissance paternelle.
Pour ce qu'elle me rapporte.
Et la famille, papa. Quelle blague, quelle drôle d'invention.
Elle n'est pas de moi.
Sais-tu comment je la définis, la famille ? Une réunion forcée, sous le même toit, de quelques personnes qui ne peuvent pas se sentir.
Ce n'est peut-être pas vrai dans toutes les familles. Mais il y a dans l'espèce humaine plus de 4 familles comme la nôtre, sans compter celles qui ne s'en vantent pas.
Et tu es mal tombé.
Toi aussi.
Notre famille, ce devrait être, à notre choix, ceux que nous aimons et qui nous aiment.
Le difficile est de les trouver. Tâche d'avoir cette chance plus tard. Sois l'ami de tes enfants. J'avoue que je n'ai pas su être le tien.
Je ne t'en veux pas.
Tu le pourrais.
Nous nous connaissions si peu.
Et moi qui t'aurais cru plutôt de son côté.
C'est un comble.
C'est naturel. La preuve, quand ta mère te demandait, car elle avait cet aplomb, « Lequel aimes-tu mieux, ton papa ou ta maman ?» tu répondais.
« Je vous aime autant l'un que l'autre. »
Ta mère insistait, « Poil de carotte, tu as une petite préférence pour l'un des deux. » Et tu finissais par répondre, « Oui, j'ai une petite préférence pour maman, jamais pour papa. » Tu m'agaçais avec ta petite préférence. Tu avais beau ne pas savoir ce que tu disais.
« Oh, que si ! Je disais ce qu'elle me faisait dire. Entre elle et moi, c'était convenu d'avance.
» C'est bien elle.
Et elle veut à présent que je dise « mon père » au lieu de « mon papa ». Mais sois tranquille.
Ah, je n'ai pas eu de chance. Je me suis trompé sur ta nature comme je m'étais trompé sur celle de ta mère.
Oui, mais à rebours.
Et ça compense.
Oh non, papa. Je te plains sincèrement. Moi, j'ai l'avenir pour me créer une autre famille, refaire mon existence. Et toi, tu achèveras la tienne. Tu passeras toute ta vieillesse auprès d'une personne qui ne se plaît qu'à rendre les autres malheureux.
Autre victime de la méchanceté d'une mère, extrait du roman « Vipère au poing », écrit en 1948 par Hervé Bazin. Ce roman autobiographique est le récit de l'enfance et de l'adolescence de Jean Rezeau, surnommé « Brasse-Bouillon », et de ses relations conflictuelles avec sa mère dite « Folcoche ». Voici un premier extrait du roman. C'est l'heure du dîner. Brass Brouillon et ses frères, Ferdinand dit Freddy et Marcel dit Cropette, sont à table avec leurs parents.
Je me souviendrai toute ma vie. Folle coche. Les platanes, pourquoi portent-ils ces curieuses inscriptions, ces VF quasi rituels, que l'on pourra retrouver sur tous les arbres du parc? Chênes, tulipiers, frênes, tous, sauf un taxodier que j'aime. VF, 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 c'est-à-dire vengeance à folle coche, vengeance. Vengeance à Folcoche, gravée dans toutes les écorces et sur les potirons de fin d'année et sur le tuffeau des tourelles, cette pierre tendre qui se laisse bien creuser à la pointe du canif, et même en marge des cahiers. Non, ma mère, cela n'est point une ressource mnémotechnique, verbe français. Ne pas oublier tes verbes français. Non, ma mère, il n'y a plus qu'un seul verbe qui compte ici et nous le déclinons correctement à tous les temps. Je te hais, tu me hais. Il la haïssait, nous nous haïrons. Vous vous étiez haïs, ils se haïrent. VF, VF, VF. J'ai les mains sur la table. Mon dos n'offense pas la chaise. Je suis terriblement correcte. Aucune faille légale dans mon attitude. Je peux te regarder fixement, Folcoche. C'est mon droit. Je te fixe donc. Je te fixe éperdument. Je ne fais que cela, de te fixer. Et je te parle en moi. Je te cause, Folcoche, m'entends-tu? Alors je vais te dire, t'es moche. Tu as les cheveux secs, le menton mal foutu, les oreilles trop grandes. T'es moche, ma mère, et si tu savais comme je ne t'aime pas. Je te le dis avec la même sincérité que le « va, je ne te hais point » de Chimène, dont nous étudions en ce moment le cornélien caractère. Moi, je ne t'aime pas. Je pourrais te dire que je te hais, mais ce serait moins fort. Oh, tu peux durcir ton verre de prunelle, ton poison de regard. Moi, je ne baisserai pas les yeux. D'abord parce que ça t'emmerde. Ensuite, parce que Schiff me regarde avec admiration. Lui qui sait que je tente de battre le record de 7 minutes 23 secondes que j'ai établi l'autre jour. J'ai 1000 raisons de tenir le coup, Folcoche. Tu vois que je suis toujours en face de toi. Mon regard tendu vers ta vipère de regard à toi, tendu comme une main et serrant, serrant tout doucement, serrant jusqu'à ce qu'elle en crève. Hélas, pure illusion d'optique, tu ne crèveras pas, mais ça ne fait rien. Freddy, par de minuscules coups d'ongle sur la table, vient de m'annoncer que j'ai battu le record, que j'ai tenu plus de 8 minutes. 8 minutes, Folcoche. Et je continue. Ah, Folcoche de mon cœur, par les yeux je te crache au nez, je te crache au front, je te crache.
Imaginons que votre mère n'ait pas été ce qu'elle a été. Vous n'auriez pas été Hervé Bazin.
Ça c'est sûr, ça fait aucune espèce de doute. En final, je n'ai fait que de lui rendre hommage depuis 25 ans. Un hommage un peu dur, mais en définitive on s'estimait tous les deux.
Vous estimiez jusqu'au bout?
On s'estimait bien, on ne s'aimait pas. Vous savez, les combattants aiment bien leur adversaire à leur façon. Et depuis qu'elle n'est plus là, on s'ennuie dans la famille. Ça fait un peu vide.
Lorsque vous dites que votre mère était très dure, ça veut dire quoi très précisément?
C'était ses horaires extrêmement serrés, cette façon de parler aux enfants exactement comme les bêtes de somme. Enfin, elle nous reprochait d'exister.
Un second extrait du roman d'Hervé Bazin. Cette fois-ci, les trois frères ont décidé de se débarrasser de leur mère, de la tuer. Pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Les voici qui viennent de subtiliser à Folcoche son flacon de médicaments dans le but de l'empoisonner. 100 gouttes doivent suffire, fis-je tout bas. Ah, nous empoisonnons les chevaux? Eh bien voilà en effet de quoi tu es un cheval, ricanait Freddy. Cropette était blanc comme une mariée. « Mais l'autopsie révélera l'empoisonnement, » murmurait le Benjamin. « Penses-tu, il n'y aura pas d'autopsie? Au plus aller, on croira qu'elle a forcé la dose. » Demain matin, dans son café noir, Freddy occupera Fine quelques secondes et détournera son attention, tandis que je viderai le flacon dans la tasse. Tout se passa correctement, mais hélas, nous n'avions pas prévu une chose. Entraîner
par une absorption massive de cette drogue. Folcoche était littéralement mitridatisé. Cet excès de belladone lui flanqua seulement une mémorable colique. « Nous aurions dû employer le cyanure de potassium des insectes », déclara Ferdinand. « Impossible, le cyanure laisse des traces caractéristiques », rétorqua Cropette, affolée. « Ne vous en faites donc pas, nous la repincerons. » « Un accident est vite arrivé », fis-je en guise de conclusion. Durant plusieurs semaines, je me torturais l'imagination. J'avais beau dire, ce n'était pas si facile que ça. Je ne m'interrogeais pas sur l'énormité du crime, aussi naturel à mes yeux que la destruction des taupes ou la noyade d'un rat. Quelle occasion pourrais-je saisir ou provoquer qui pût faire croire à une mort naturelle ? Pas si facile que cela, je vous le répète. L'occasion me fut fournie lors d'une randonnée en bateau sur Lomé. Un dimanche après-midi, nous avions, mes frères et moi, résolu de remonter la rivière jusqu'au barrage d'Amont, situé à plus de 2 kilomètres. En principe, nous n'avions pas le droit de pousser si loin. Mais l'attrait de l'expédition l'emporta sur toute autre considération. Soudain retentirent les appels bien connus de Folcoche, lancés sur le sentier de la guerre.
« Les enfants ! Les enfants ! Où êtes-vous ? »
Manquait plus que ça, nom de Dieu, jura Freddy qui trouvait l'expression masculine. « Qu'est-ce qu'on va encore prendre ?» gémit Cropette. Nous redescendîmes à vive allure. Mais à la passerelle, Folcoche nous attendait. Elle cria de loin « Débarquez immédiatement et rentrez à la maison !»« Taisez-vous, » fis-je très bas. « Taisez-vous et laissez-moi faire. On va passer sous la passerelle. Freddy, donne-moi la godille !» Croyant deviner mon intention, Folcoche s'assit sur le madrier qui constituait l'essentiel de la passerelle, bien décidé à sauter dans le bateau lorsqu'il filerait entre ses jambes. Poussé par le courant et par moi, celui-ci se présenta bien devant elle. Mais à l'instant précis où elle sautait, je donnai un brusque coup de barre à droite. Folcoche tomba dans la rivière. Renversant la manœuvre, je réussis à lui passer sur la tête, qui érafla le front de tôle et à m'éloigner suffisamment pour qu'elle ne puisse s'agripper au bastinage. Feignant l'affolement, je laissai échapper ma godille afin de me trouver dans l'incapacité officielle de lui porter secours. Cropette poussait des cris lamentables. Freddy criait passionnément « Splendide ! Splendide !» Pas si splendide que ça. Elle barbotait dans son bouillon d'herbe, Madame Réseau. Elle barbotait, mais elle ne coulait pas. Elle ne criait pas, elle ne faisait pas attention à nous. Elle parvenait même à se maintenir sur l'eau et à gagner quelques centimètres dans la direction du pied de la passerelle. Freddy changea de refrain. « Elle va s'en tirer, la garce. Faut lui foutre un coup de talon sur la tête. » Mais ce bon conseil, il le proféra tout bas dans mon oreille et nul d'entre nous ne bougea, comme bien vous le pensez. D'abord, c'était impossible. Nous n'avions que nos mains pour pagayer. Ensuite, une maladresse volontaire peut s'interpréter. Mais le coup de grâce donné à une personne qui se noie, voilà qui n'est plus du tout équivoque et engage autrement votre responsabilité. La rage au cœur, je dus assister au sauvetage de Folcoche par elle-même. Sauvetage par elle-même, je dis bien, car elles étaient deux dans Lomé. La fragile Madame Réseau, toute couturée, sans muscles, manquant de souffle, et l'indomptable Folcoche, décidé à vivre et à faire vivre son double, malgré l'eau sale qui trempait les cheveux, lui rentrait dans la gorge, vivement recraché, malgré nos silencieuses prières à Satan. La voilà qui se rapproche de la berge, la voilà qui s'agrippe à une touffe de sauge, l'arrache, retombe, saisit cette fois-ci une racine plus solide et se hisse péniblement sur la rive, où elle s'effondre, épuisée, mais sauvée. Oh, pas pour longtemps. On ne s'effondre pas devant 3 petits imbéciles dont elle ne soupçonne pas que 2 au moins d'entre eux ont comploté sa mort. Folcoche se relève, ses hardes luisantes plaquées sur de maigres cuisses. Elle se relève et commence à hurler.
« Pagayez donc avec les mains, t'as dit idiot ! Je vous en ficherai, moi, des promenades en bateau !»
Freddy lâche à pied. « Beau travail, » grommela-t-il maintenant. Cropette dit très haut. « On n'a pas idée d'être aussi maladroit. » Et Folcoche, qui ne tient debout qu'à force de volonté, sourit soudain, se secoue comme un chien mouillé et sans plus s'inquiéter de nous, se hâte vers la maison, riche d'un énorme prétexte à représailles.
C'est un petit air qui fait grincer les dents, un sale refrain plein de mort et pourtant pas une goutte de sang. Sans revolver ni poison, sans scrupule et sans cadeau, c'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est la petite chanson des assassins sans couteau.
C'est pour pas cher que la bras de l'ami, celui qui donne, celui qui trahit, 30 deniers c'est le prix. Pour l'exécution facile des dessins les plus salauds, chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Cinglant reproche sur les rideaux visage, elle tombe de la bouche d'un mari volage, indifférent au saccage. Sans pitié, vas-y, fais mal, frappez-tu, allez bourreau, fredonne le madrigal des assassins sans couteau.
Fredonne le madrigal des assassins sans couteau.
Ils donnent au journal le nom du coupable, même si demain le cas est contestable. Est irrémédiable. Jouer crin-crin, sonner crécelle, quand canon frappe les mots, quand canon la ritournelle des assassins sans couteau.
Quand canon la ritournelle des assassins sans couteau.
Ce que le pouvoir enivre et corrompt, les petits chefs à coups d'humiliation servent sur tous les tons. Le menton plein d'arrogance, déversant la haine à flot, nazis lavent leur romance des assassins sans couteau.
Nazis lavent leur romance des assassins sans couteau.
Toi qui la connais pour l'avoir chantée mille fois déjà sans être inquiété, méfie-toi, le vent peut tourner. Susurrer à mots choisis et te planter dans le dos la lugubre mélodie des assassins sans couteau.
Susurrer à mots choisis et te planter dans le dos la lugubre mélodie
des assassins sans couteau.
Ça peut pas faire de mal.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Des fleurs? Mais qu'est-ce qui se passe?
Ça, c'est votre fête, la Sainte-Irène.
Un an de plus, charmant.
La main du diable, de Maurice Tourneur.
Et ça?
Ça, c'est une surprise.
Quoi? Oh, des gants.
De Suède?
Je ne vois que ça toute la journée et vous m'en servez à dîner.
Ben, j'avais pensé que c'était...
On vous a refilé du vieux stock. Enfin, j'espère que vous avez gardé l'étiquette, vous pourrez les rendre. Lâchez-moi! Vous êtes assez grand pour me faire mal, mais trop petit pour me faire peur.
Trop petit?
Oui, trop petit. Vous ne serez toujours qu'un petit pain dans un petit atelier. Vous mangerez à des petites tables, vous aimerez les petites femmes dans les petits lits. Et quand vous aurez fini votre petite vie, on vous mettra dans une petite boîte. Au revoir, mon petit!
Passons à un extrait de la nouvelle « Miss Harriet » de Guy de Maupassant. Dans cet extrait, Maupassant dresse le portrait d'un homme alcoolique. Ce dernier raconte à un vieil ami en quoi la méchanceté des adultes a mis fin à son innocence d'enfant. Tu te rappelles bien le château où je fus élevé puisque tu es venu 5 ou 6 fois pendant les vacances. Tu te rappelles ce grand bâtiment en gris au milieu d'un grand parc et les longues avenues de chênes ouvertes vers les 4 points cardinaux. Tu te rappelles mon père et ma mère, tous les deux cérémonieux, solennels et sévères. J'adorais ma mère. Je redoutais mon père et je les respectais tous les deux, accoutumés d'ailleurs à voir tout le monde courbé devant eux. Ils étaient dans le pays, monsieur le comte et madame la comtesse. Et nos voisins aussi, les Tannemar, les Ravalais, les Brenneville, montraient pour mes parents une considération supérieure. J'avais alors 13 ans, j'étais gai, content de tout, comme on l'est à cet âge-là, tout plein du bonheur de vivre.
Or, vers la fin de septembre, quelques jours avant ma rentrée au collège, comme je jouais à faire le loup dans les massifs du parc, courant au milieu des branches et des feuilles, j'aperçus, en traversant une avenue, papa et maman qui se promenaient. Je me rappelle cela comme d'hier. C'était par un jour de grand vent. Le soir venait. Il faisait sombre dans les fourrés. Cette agitation du vent et des branches m'excitait, me faisait galoper comme un fou et hurler pour imiter les loups. Dès que j'eus aperçu mes parents, j'allais vers eux à pas furtifs sous les branches pour les surprendre, comme si j'eusse été un rôdeur véritable. Mais je m'arrêtai, saisi de peur, à quelques pas d'eux. Mon père, en proie à une terrible colère, criait « Ta mère est une sotte !» Et d'ailleurs, ce n'est pas de ta mère qu'il s'agit, mais de toi. Je te dis que j'ai besoin de cet argent et j'entends que tu signes. Maman répondit d'une voix ferme. Je ne signerai pas. C'est la fortune de Jean, cela. Je la garde pour lui et je ne veux pas que tu la manges encore avec des filles et des servantes comme tu as fait de ton héritage. Alors papa, tremblant de fureur, se retourna et saisissant sa femme par le cou, il se mit à la frapper avec l'autre main de toute sa force, en pleine figure. Le chapeau de maman tomba, ses cheveux dénoués se répandirent. Elle essayait de parer les coups, mais elle n'y pouvait parvenir. Et papa, comme fou, frappait. Elle roula par terre, cachant sa face dans ses deux bras. Alors il la renversa sur le dos pour la battre encore, écartant les mains dont elle se couvrait le visage. Quant à moi, mon cher, il me semblait que le monde allait finir, que les lois éternelles étaient changées. J'éprouvais le bouleversement qu'on a devant les choses surnaturelles, devant les irréparables désastres. Ma tête d'enfant s'égarait, s'affolait, et je me mis à crier de toute ma force, sans savoir pourquoi, en proie à une épouvante, à une douleur, à un effarement épouvantable. Mon père m'entendit, se retourna, m'aperçut, et se relevant, s'en vint vers moi. Je crus qu'il m'allait tuer, et je m'enfuis comme un animal chassé, courant tout droit devant moi dans le bois. J'allais peut-être une heure, peut-être deux, je ne sais pas. La nuit étant venue, je tombai sur l'herbe et je restai là éperdu, dévoré par la peur, rongé par un chagrin capable de briser à jamais un pauvre cœur d'enfant. J'avais froid, j'avais faim peut-être. Le jour vint, je n'osais plus me lever, ni marcher, ni revenir, ni me sauver encore, craignant de rencontrer mon père, que je ne voulais plus revoir. Je serais peut-être mort de misère et de famine au pied de mon arbre si le garde ne m'avait découvert et ramené de force. Je trouvais mes parents avec leur visage ordinaire. Ma mère me dit seulement « Comme tu m'as fait peur, vilain garçon, j'ai passé la nuit sans dormir. » Je ne répondis point, mais je me mis à pleurer. Mon père ne prononça pas une parole. 8 jours plus tard, je rentrais au collège. Eh bien, mon cher, c'était fini pour moi. J'avais vu l'autre face des choses, la mauvaise. Je n'ai plus aperçu la bonne depuis ce jour-là. Que s'est-il passé dans mon esprit? Quel phénomène étrange m'a retourné les idées? Je l'ignore. Mais je n'ai plus eu de goût pour rien, envie de rien, d'amour pour personne, de désir quelconque, d'ambition ou d'espérance. Et j'aperçois toujours ma pauvre mère par terre dans l'allée tandis que mon père l'assommait. Maman est morte après quelques années. Mon père vit encore. Je ne l'ai pas revu.
Monsieur le directeur, votre femme monte.
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, de Jean-Yann.
Nom de Dieu, fallait pas la laisser monter. Faut pas qu'elle me trouve ici, elle est foutue de me tuer. Écoutez, mon vieux, alors soyez gentil, faites quelque chose pour moi. Dites-lui n'importe quoi, dites-lui que vous assurez mon intérim. Je sais pas, moi, je vais me cacher dans mes toilettes.
Mais c'est tordure.
Quelle ordure, quelle ordure. Vous êtes dans une station de radio, il y a pratiquement que ça.
Plantier, mon mari, c'est pas une ordure, peut-être. Je vais lui trancher la gorge, je vais le lacérer.
Vous avez peut-être eu un petit différent, c'est pas une raison.
Oh non, non, pas un petit différent. Il m'a fait enfermer pendant 3 mois. Il voulait me faire passer pour folle.
Et voici encore un petit florilège de citations féroces tirées du merveilleux livre « Le grand livre de la méchanceté » de Pierre de Racheline. Les femmes ont de tout temps été la cible d'attaques misogynes. En voici quelques savoureux exemples.
Les femmes laides ont leur utilité. Si on cherche la respectabilité, il suffit de les inviter à dîner. Oscar Wilde.
Toutes les femmes sont bêtes. Les unes par manque d'intelligence, les autres par peur de se servir de leur intelligence. Roland Dubillard.
La femme est assez proche de l'homme, comme l'épagneul breton. À ce détail près qu'il ne manque à l'épagneul breton que la parole, alors qu'il ne manque à la femme que de se taire. Pierre Desproges.
Je n'ai jamais eu de chance avec les femmes. Il est toujours arrivé un moment où leur bêtise a dépassé mon amour. Paul Léoto.
Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de pédéraste. Charles Baudelaire.
La guerre est le lieu de toutes les méchancetés. Celle des bourreaux, évidemment, mais aussi celle des victimes. Extrait de Sueur de sang de Léon Blois. Chapitre 10. Un épouvantable huissier. Tout le monde ne connaît pas Léon Blois et pourtant, c'est un incontournable pour qui s'intéresse au thème de la méchanceté en littérature. Son ton est vif et tranchant. Dans ces quelques pages, il nous raconte le plan machiavélique qu'élabore un huissier français victime de l'invasion allemande. Il met tout en œuvre pour se venger. « 25 novembre. Entrée des Prussiens dans la petite ville de S. Il est tard et déjà les habitants fatigués des 2 nuits d'angoisse qui ont précédé commencent à s'endormir lorsque d'abominables cris se font entendre. « Ouvrez les portes, éclairez fenêtres !» Et des hommes à cheval parcourent au galop les places et les rues tandis que d'autres, la craie à la main, inscrivent sur la porte de chaque maison le nombre d'hommes à loger et à nourrir. En un instant, la ville est illuminée et sillonnée en tous sens par l'armée prussienne. On devine ce que peut être le destin des boulangers, des bouchers, des épiciers et autres vendeurs de mangeailles. Pour ce qui est des habitants, chacun, pauvre ou riche, est tenu de loger et de nourrir 10, 20 et jusqu'à 50 de ces arsouilles. Ils s'installent partout, de la cave aux fêtes. Beurre, pommes de terre, café, chocolat, sucre, vin, eau de vie, volaille, lapin et chat, tout leur est bon, rafle complète. L'Allemagne s'empiffre à crever. Nous, maître ici, gueule bavarois et mecklenbourgeois. Nous, maître ici, nous, maître partout. Ils se couchent enfin comme des porcs en attendant la trique de l'excitateur galonné qui les dessoulera dans quelques heures. Les agonisants même et les tout petits enfants sont forcés de céder leurs draps et leurs couvertures. Une femme de 85 ans râle et meurt en chemise au pied de son lit où ronflent puissamment 4 sous-officiers. Il y avait alors dans la ville un huissier fameux, répondant au nom d'Ovide Parfait. Cet officier ministériel, enrichi par de longues et inexplicables dépravations, avait été forcé de loger et de remplir toute la nuit 40 hommes et 30 chevaux. On l'avait attaché lui-même, plusieurs heures, dans l'écurie, pendant que sa vieille compagne d'iniquité, laide pourtant à épouvanter les boucs et les talamasques, subissait les derniers outrages et les charges multipliées de chacun de ses garnissaires, dont la turpitude s'exalta jusqu'à inviter les camarades. L'excès même de la rage du praticien, dont la jalousie célèbre était une des curiosités du pays, le préserva de la mort sans gloire que ses imprécations forcenées eussent dû infailliblement lui attirer. Les soldats s'en amusèrent tant qu'ils purent, et ce fut dans sa maison que se dilata le mieux la rate allemande. Il est vrai qu'ils brisèrent tout avant de partir, et de façon si complète qu'à l'exception de quelques rares objets tout à fait insignifiants, il n'eût pas été possible de trouver chez lui le moindre fragment réparable d'un meuble ou d'un ustensile. Lorsque les voisins, attirés par ses hurlements, le délivrèrent, il était coiffé d'un vaste pot de chambre qu'on avait eu soin d'emplir auparavant. Sa première action, digne assurément d'être consigné dans l'histoire, fut d'aller au secours de sa femelle qui poussait au-dessus de lui d'ineffables gémissements. L'horrible mégère déficelée, débâillonnée du torchon sale dont on avait étouffé ses cris, parut plus vivante que jamais. Outré déjà d'un si grand nombre de fornications involontaires, tout son fiel se répandit à l'aspect du monceau de ruines que son ménage était devenu, et il ne lui fut que trop facile de livrer au démon de la vengeance l'âme ulcérée de son époux. Quatre jours après, dans un château du voisinage, le général d'infanterie de Meinstein, commandant le 9e corps, achevait un dîner de roi en compagnie de son chef d'état-major, Bronsart de Schellendorf, et du général-lieutenant baron de Wrangel. Ces messieurs, ivres de gloire et d'excellent vin français, devisaient naturellement avec profondeur sur la sublimité des armées allemandes et le juste châtiment de la nation impie et vaniteuse qu'elle foulait aux pieds. La confortable demeure qu'ils honoraient ainsi de leur digestion étant située sur une éminence, ils n'avaient en plein jour qu'à lever les yeux pour apercevoir la ville à 2 lieues de là. Mais la nuit était venue pendant le repas. Une pudique nuit de France qui leur cachait le pays entier. Impossible de voir à 4 pas devant soi. La fenêtre n'était plus qu'un large pan noir. Tout à coup, une petite lueur blanche apparut au loin. Une petite lueur d'étoile en perdition sur les gouffres de la terre, qui devint une clarté vive et bientôt après, un luminaire puissant d'une éblouissante candeur, éclairant les toits des édifices, la campagne silencieuse et faisant pâlir jusqu'aux bougies de la table du festin. La couleur claire des nappes de flammes semblait agir péniblement sur ces grossiers imaginatifs, incapables de concevoir une providence qui n'habiterait pas un ciel noir ou un ciel de sang. À la fin, le général commandant, devenu très blême, tendit une feuille de papier à ses 2 convives. « Je l'avoue, dit-il, j'ai cru à la lettre d'un fou. À cette heure, le mal est irréparable. » Voici quelle était la teneur du message. Monsieur le général commandant le 9e corps. Le 25 du présent mois, la ville de S, désignée pour l'occupation, a été livrée au pillage et saccagée de fond en comble par vos soldats. Pour ma part, j'ai eu à loger et à nourrir 40 hommes et 30 chevaux. J'ai dû me résigner à cette contribution exorbitante. Ma récompense, la voici. On a tout brisé chez moi, tout réduit en miettes, et mon épouse, âgée de 53 ans, a été violée toute la nuit, non seulement par les bandits installés dans ma maison, mais par un grand nombre de leurs camarades répartis dans le voisinage qu'ils ont eu l'audace de convier à leur criminelle orgie. En conséquence de ces faits, monsieur le général commandant, j'ai résolu de punir, et j'ai l'honneur de vous informer, le plus tard possible, que ce soir même, je ferai mourir par le feu les nouveaux occupants de ma demeure au nombre de 80, fixés et sollicités par moi-même, ayant pris au préalable les précautions les plus minutieuses pour qu'aucun d'eux ne puisse échapper à ma vengeance. J'ai cru devoir vous notifier mon dessein, ignoré de tous les habitants de la ville sans exception, pour qu'il soit bien entendu que mes concitoyens ne sauraient en être faits responsables sans iniquité. Je suis le seul coupable. Faites-moi pendre, si vous le pouvez. Ovid parfait, huissier. Inespérément, il y avait eu 2 jours d'intervalle entre le premier et le second cataclysme. L'effrayant huissier ne les avait pas perdus. Pendant 24 heures, murs, cloisons, planchers et charpentes avaient mariné, pour ainsi dire, dans le pétrole et l'essence de térébenthine. Tout ce qui peut être imaginé de plus gras, de plus oléagineux, de plus inflammable, avait été fourré, prodigué dans les moindres coins. Un amas de boules résineuses gisait sous chaque feuille de parquet déclouée avec patience et reclouée avec frénésie. La cave même avait été préparée pour devenir une fosse de flammes à la plus légère étincelle. Enfin, une énorme futaille vide montée au grenier avait été chargée de 200 litres de naphte que le diabolique record était parvenu à se procurer pour qu'au moment de l'apothéose, toute la maison fût enveloppée d'une immense chasuble de feu. Et l'horrible chose fut accomplie comme il l'annonçait au commandant, sous les yeux de ce chef de guerre flagellé par le sentiment de son impuissance. L'officier de justice avait, en effet, si bien pris ses précautions, instrumenté avec tant de précision et de sagesse, qu'aucun des 80 hommes condamnés à être brûlés, vivants, ne réussit à s'évader de la fournaise et qu'il ne fut pas même possible de recueillir le dernier souffle d'un calciné. Tel fut le suprême exploit de cet admirable canaille d'huissier parfait qui ne reparut jamais au milieu des hommes.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Il y a dans ma maison quelqu'un dont je me méfie, qui me défie, qui s'assied à ma place, qui me ressemble comme un frère, qui respire mon air.
Amen de Costa Gavras.
Je vais t'emmener, Ricardo.
Non. Ici, Dieu laisse ses enfants se faire dévorer. Je veux comprendre. Pourquoi ?
Tu as tort. Tu as tort de vouloir te sacrifier. Il faut sortir d'ici pour dire au monde ce qui s'y passe.
Et Einstein ! Le monde est parfaitement au courant. Regardez-le, il n'a même plus l'air d'un curé. Par la cheminée, comme les autres, puisqu'il les aime tant.
Pour conclure, voici un extrait du Goncourt 2006, Les Bienveillantes, de Jonathan Littell. Le narrateur de ce roman, Maximilien Hao, revient sur une période cruciale de sa vie, son engagement auprès des nazis et son rôle dans l'extermination de masse. À travers sa confession, il interroge les frontières entre bourreaux et victimes, méchants et gentils. Un extrait de la première partie intitulée Toccata, dans laquelle il se décrit comme un homme parmi d'autres, comme les autres. Je ne regrette rien. J'ai fait mon travail. Voilà tout. Si j'ai enfin décidé d'écrire, c'est bien sans doute pour passer le temps, et aussi, c'est possible, pour éclaircir un ou deux points obscurs, pour vous peut-être, et pour moi-même. Je suis sorti de la guerre un homme vide, avec seulement de l'amertume et une longue honte, comme du sable qui crisse entre les dents. Je devine votre pensée. Voilà un bien méchant homme, vous dites-vous.
un homme mauvais, bref, un sale type sous tous les rapports, qui devrait moisir en prison plutôt que de nous asséner sa philosophie confuse d'ancien fasciste à demi-repenti. Je ne plaide pas la contrainte par les ordres, si prisée par nos bons avocats allemands. Ce que j'ai fait, je l'ai fait en pleine connaissance de cause, pensant qu'il y allait de mon devoir, et qu'il était nécessaire que ce soit fait, aussi désagréable et malheureux que ce fût. Je ne cherche pas à dire que je ne suis pas coupable de tel ou tel fait. Je suis coupable, vous ne l'êtes pas, c'est bien. Mais vous devriez quand même pouvoir vous dire que ce que j'ai fait, vous l'auriez fait aussi. Avec peut-être moins de zèle, mais peut-être aussi moins de désespoir. En tout cas, d'une façon ou d'une autre. Je pense que tout le monde, ou presque, dans un ensemble de circonstances données, fait ce qu'on lui dit. Comme la plupart, je n'ai pas demandé à devenir un assassin. Si je l'avais pu, j'aurais fait de la littérature. Écrire, si j'en avais eu le talent. Sinon, peut-être enseigner. Quoi qu'il en soit, vivre au sein des choses belles et calmes, des meilleures créations du vouloir humain. Qui, de sa propre volonté, à part un fou, choisit le meurtre ? Ceux d'entre nous que vous jugez comme des criminels, il y en a eu des centaines de milliers. Parmi eux, comme parmi tous les humains, il y avait des hommes banals, certes, mais aussi des hommes peu ordinaires, des artistes, des hommes de culture, des névrosés, des homosexuels, des hommes amoureux de leur mère, que sais-je encore, et pourquoi pas. Moi aussi je vivais, j'avais un passé lourd et onéreux, mais cela arrive et je le gérais à ma manière. Puis la guerre est venue. Je servais. Et je me suis retrouvé au cœur de choses affreuses, d'atrocités. Je n'avais pas changé, j'étais toujours le même homme. Il en est pour qui la guerre ou même le meurtre sont une solution. Mais moi, je ne suis pas de cela. Pour moi, comme pour la plupart des gens, la guerre et le meurtre sont une question sans réponse. Et une chose en entraîne une autre. J'ai commencé dans le cadre du service. Puis, sous la pression des événements, j'ai fini par déborder de ce cadre. Mais tout cela est lié, intimement lié. Dire que s'il n'y avait pas eu la guerre, j'en serais quand même venu à ces extrémités, c'est impossible. Ce serait peut-être arrivé, peut-être non. Peut-être aurais-je trouvé une autre solution, on ne peut pas savoir. Eckhart a écrit « Un ange en enfer vole dans son propre nuage de paradis ». J'ai toujours pensé que l'inverse aussi devait être vrai, qu'un démon au paradis volerait au sein de son propre nuage d'enfer. Mais je ne pense pas être un démon. Pour ce que j'ai fait, il y avait toujours des raisons, bonnes ou mauvaises, je ne sais pas. En tout cas, des raisons humaines.
Ça peut pas faire de mal.
Cet automne, retrouvez Christine Murillo dans Le Tartuffe de Molière, aux côtés de Michel Bouquet dans une mise en scène du génial Michel Faux au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Jean-Michel Bernot. Elle a été préparée par Estelle Gap, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.